Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir Timothée Parik.
Bonsoir. Bon,
merci d'être là avec nous pour parler de ce dernier livre. On va y venir dans un instant. Quelques mots pour vous présenter, même si, vu l'assistance, je pense que ça ne va pas être très nécessaire. En tout cas, ça va être assez rapide. Vous êtes économiste, chercheur. Vous êtes enseignant aussi à l'Université de Lausanne en Suisse. Vous travaillez sur la macroéconomie de la post-croissance et la décroissance. On y verra dans un instant sur ces nuances-là. Elles sont importantes et elles sont au cœur de cet ouvrage. Vous avez déjà signé « Ralentir ou périr, l'économie de la décroissance » et vous signez ce dernier livre chez Actes Sud, « La science de la post-croissance ». Je vais planter le décor et faire un pitch très rapide, Timothée Parik. Dans ce livre, vous expliquez, voilà, vous revenez vraiment en détail sur la post-croissance, mais avec une particularité, il y a deux parties dans ce livre. La première, c'est un article purement scientifique, un article de fond. Vous prévenez d'ailleurs le lecteur, et pour ceux qui liront le livre, je vous encourage à lire vraiment tout le début, parce qu'il y a une mise en garde entre guillemets, c'est un article de fond, parfois aride, un peu abrupte, donc il faut un peu s'accrocher pour se plonger dedans. Et d'où l'intérêt d'avoir la deuxième partie, parce que c'est là où vous entrez en scène, et ce que vous expliquez très bien, c'est que vous ouvrez cet article, vous mettez à jour tout ce qui est évoqué dans cette première partie pour faire un travail de pédagogie, d'explication, de décryptage, pour mettre à jour les thèses qui ont cours sur la post-croissance. Voilà, et je vais le résumer d'une phrase qui est dans le livre et qui est extrêmement claire et qui finalement, pour moi, m'a ouvert complètement la lumière, c'est que la post-croissance, une fois qu'on a tout mis bout à bout, une phrase résume tout ça, c'est de la prospérité sans croissance. Donc je cherche depuis tout à l'heure une image qui pourrait aller avec, mais ça ne me vient pas, j'ai que des choses qui sont assez floues, mais vous y viendrez. Voilà, de la prospérité sans croissance. Et Timothée Parik, je voudrais qu'on commence par au moins une explication de texte dans ce livre. Il est question à la fois de décroissance et de post-croissance. Les deux termes sont parfois dans la même phrase. Ils se juxtaposent, ils se retrouvent. Et pour autant, dans le champ politique, de ce qui nous intéresse et ce qu'on vit tous les jours, dans le champ politique, la décroissance est souvent une accusation portée par une partie de la droite, des libéraux, des centristes, contre une autre partie de la gauche. On les enferme dans cette accusation-là d'être des décroissants, de vouloir revenir, pour reprendre l'expression bien connue, à la lampe à huile ou à la bougie. Timothée Parik, c'est quoi la nuance entre les deux?
Alors, je vais même rajouter un troisième terme, l'objection de croissance, pour vraiment essayer de vous donner une carte conceptuelle. C'est important de le rappeler parce que cet ouvrage, il paraît quand même dans une collection particulière dont l'objectif est de vulgariser de la connaissance scientifique. Donc moi, une partie de mon travail, donc je suis chercheur à l'université, on écrit des articles scientifiques qui sont écrits en anglais et qui sont très chers. C'est-à-dire que quand on fait partie du public, si vous ne travaillez pas à l'université, vous n'avez pas accès à ces revues scientifiques. Et donc, non seulement c'est écrit en anglais, ça coûte très cher, mais aussi c'est écrit de manière un petit peu rebutoire, on va dire. C'est pour ça que je mets en garde. Et donc, la plupart du temps, même si on a des articles fascinants, et dans le champ de la post-croissance, il y en a presque 2000 depuis 2007, c'était la première publication scientifique, mais on n'en entend pas parler. Pourtant, chacun de ces articles apporte une connaissance qui n'existait pas avant dans l'histoire de notre espèce. Donc, c'est quand même, enfin, c'est le principe de la publication scientifique, donc c'est quand même assez génial. Et donc, l'objectif ici, c'est de dire, OK, on va faire un état des lieux des connaissances qu'on a obtenues de ce champ de littérature. Et donc, j'ai choisi un article de 2025 assez récent qui a été écrit par un groupe de collègues. Et donc, ces collègues ont choisi d'intituler leur article en utilisant le terme de post-croissance. Donc, ils l'ont intitulé post-croissance, c'est en anglais, mais je vous le fais directement en français, post-croissance, la science du bien-être à l'intérieur des limites planétaires. Et donc, moi, post-croissance, déjà, j'ai repris ce terme et comme un terme un petit peu parapluie qui vient englober ce champ d'études. Alors déjà, on va faire une petite différence, c'est le terme pour parler du champ d'études, et ensuite on va voir qu'est-ce que ça veut dire dans la réalité. Donc ce champ d'études, il est vaste, et moi je vais vous le diviser en trois concepts. Okay, le premier concept du champ d'études de la post-croissance, en anglais on dirait aussi « growth critical studies ». Alors, si vous avez une proposition de traduction française, je suis preneur. Growth Critical Studies, c'est toutes les études qui prennent comme point de départ une critique de la croissance. Donc, le premier des trois concepts, c'est objection de croissance, décroissance et post-croissance. Et dans moins de 2 minutes, vous allez connaître la différence entre les trois. Je promets beaucoup. L'objection de croissance, c'est, on va dire, la théorie critique. Ça remonte au moins aux années 70. On se souvient du rapport Meadows, limite de la croissance, des travaux peut-être d'écologie politique d'André Gortz, de Françoise Daubonne, d'autres concepts en économie écologique d'Herman Daly, de Nicolas Georgescu-Rogan, de Marilyn Waring. Bon, beaucoup de travaux des années 60, 70, 80, 90 qui commençaient à critiquer la croissance économique. Aujourd'hui, on appelle ça une objection de croissance. Donc, toute une partie de la littérature, notamment la critique environnementale de la croissance économique, on y reviendra, ça, c'est de l'objection de croissance. Bloc numéro 1. Bloc numéro 2, décroissance. Alors là, c'est un concept plus récent parce qu'il naît en France au début des années 2000. Et on va dire que c'est une prolongation de l'objection de croissance. C'est-à-dire que c'est, depuis les années 70, il y a des gens qui disent « Attention, si les économies riches continuent de croître, va y avoir un problème environnemental. » Bon, 30, 40 ans plus tard, des gens se disent « Bon, le problème environnemental, il est là. Maintenant, il ne suffit plus de s'inquiéter vis-à-vis de la croissance, objection de croissance. Il va falloir ralentir les volumes de production et de consommation. » Donc là, on comprend décroissance. Donc décroissance, on va dire, c'est une stratégie de transition qui s'inspire de la théorie critique de l'objection de croissance. Bloc numéro 2. Bloc numéro 3, post-croissance. Et là, il faut avancer un petit peu dans les années 2010. Prolongation de l'objection de croissance qui était devenue décroissance, qui va devenir post-croissance, de se dire, OK, c'est bien beau d'organiser une transition, de produire et consommer moins, mais ça nous amène où ? Qu'est-ce qu'on fait après ? Et puis surtout, réduire la production et la consommation, vu qu'on ne peut pas le faire dans l'économie telle qu'elle existe aujourd'hui, quel modèle économique est-ce qu'on peut créer qui puisse nous permettre de prospérer sans croissance ? Ça, c'est la fameuse phrase de l'économiste britannique Tim Jackson dans son ouvrage de 2009 qui s'appelait justement « Prospérité sans croissance ». Et donc ça, c'est le champ qu'on appelle aujourd'hui de la post-croissance. Et moi, dans « Ralentir ou périr », j'avais fait une petite division conceptuelle. Décroissance, transition, post-croissance, destination. Donc la décroissance, c'est une réduction de la production et de la consommation. C'est temporaire, c'est une sorte de régime macroéconomique. La post-croissance, comme je l'avais défini, c'est une économie stationnaire en harmonie avec la nature. Donc c'est plus un projet de société. Même si aujourd'hui, attention, dans le contexte de ce livre, quand je reprends le terme de mes collègues Yorgos Kallis et les autres, post-croissance, pour eux, ça veut dire les trois. Et souvent, on utilise comme synonyme pour le bloc numéro 3, on dit économie du bien-être. Donc mes collègues diraient aujourd'hui, la post-croissance, c'est l'objection de croissance, la décroissance et l'économie du bien-être comme projet de société.
Alors je reste là-dessus sur l'économie du bien-être parce que c'est aussi un des postulats du livre et de la recherche. C'est-à-dire qu'on considère que la croissance économique qui est notre, avec le PIB qui est quand même notre indicateur absolu dans toutes les économies développées dans les pays riches, cette croissance-là n'améliore pas la qualité de la vie. C'est tout ce qui motive cette réflexion-là. Est-ce que vous pouvez nous le caractériser ? Pourquoi des économistes commencent à se dire que la croissance, qui est quand même l'obsession numéro un de toutes les économies, tous les gouvernements, finalement, on arrive à un constat, c'est que ça, c'est pas forcément une bonne chose.
Alors,
et on parlera des limites planétaires après.
Oui, non, c'est un très bon point de départ. En fait,
vous opposez croissance et bien-être. Voilà.
Alors, il faut commencer. La croissance économique, qu'est-ce que c'est ? C'est l'augmentation du produit intérieur brut, qui est un indicateur monétaire. Donc là, le premier problème, c'est que le PIB, bon, c'est un indicateur ancien, il est né dans les années 30 aux États-Unis, et la manière dont on le calcule, c'est de calculer les valeurs ajoutées monétaires pendant une période donnée. Donc en gros, c'est basé sur les transactions monétaires. Donc déjà, sa grande limite, c'est que le PIB, il ne peut regarder que les choses qui sont achetées et vendues. Donc une grande partie de ce qu'on appelle notamment les services écosystémiques, donc les choses produites par la nature ne sont pas incluses, le bénévolat n'est pas inclus, tout ce qui n'a pas de prix n'est pas inclus, et bien sûr, les choses qui sont incluses en proportion de leur valeur ajoutée. Donc si vous êtes aide-soignante, toute petite valeur ajoutée, si vous êtes gros trader qui va spéculer sur le prix du pétrole, énorme valeur ajoutée, même si on comprend bien que cette proportionnalité ne reflète pas l'ajout de qualité de vie. Donc le PIB, il a plein de petits problèmes qui fait que dans un pays en développement où il y a très peu de revenus nationaux, bah, quand on voit une forte croissance, la plupart du temps, c'est quand même corrélé à une augmentation de la qualité de vie, une augmentation de l'infrastructure de mobilité et toutes ces choses, une corrélation avec le niveau d'éducation. Mais à partir d'un certain seuil de PIB par habitant, en fait, on perd cette corrélation. Et ça, on le sait depuis très longtemps. Il y avait un papier fondateur en 1974, déjà d'un économiste américain, Richard Esterlin, qui lui avait publié ses premiers résultats où il s'était rendu compte, dans beaucoup de pays, en fait, sur le long terme, systématiquement, la croissance perdait sa corrélation avec le bonheur. Alors, c'était pas le bien-être ou la qualité de vie, c'était le bonheur. Et il y a eu d'autres études après, où là, c'était pas le bonheur, mais c'était l'espérance de vie. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'études avec des indicateurs beaucoup plus fins, qui peuvent être liés à la criminalité, à la solitude, à la santé morale. Et on se rend compte qu'il y a des pays avec un petit PIB, notamment le Costa Rica, qui a un PIB par habitant en dessous de 20 000 dollars par an, donc c'est très petit comparé à d'autres pays. Bon, la qualité de vie au Costa Rica est supérieure à celle en Suisse, alors que le Costa Rica a un cinquième de son PIB par habitant. Donc ça donne lieu en fait à ces espèces de bizarreries statistiques. Et quand on creuse la bizarrerie statistique qu'on observe empiriquement avec la théorie, ben, on se rend compte que c'est normal, parce que imaginez par exemple un pays comme la France qui ferait le choix de, pour des raisons complètement irrationnelles, supprimer des jours fériés ou de travailler plus, de repousser l'âge de la retraite, par exemple. Je ne sais pas, j'imagine des choses vraiment dystopiques. Hein. Ne vous inquiétez pas, aucun jamais. Lien avec la réalité.
Ça n'arrivera jamais.
Ou de se dire, vous savez quoi, bon, vu que le PIB, c'est l'agitation des valeurs monétaires, bah, c'est chiant, parce que la nuit, en fait, on ne crée pas beaucoup de PIB quand on dort. Ou même le dimanche, vous êtes là à faire des siestes et à jouer avec vos enfants. Bon, on va plutôt se dire, non, on va travailler quand même une partie de la nuit et aller acheter des choses le dimanche. Bah, ça va booster le PIB, ce sera génial. Est-ce que ça va améliorer la qualité de vie? Bah, sûrement pas. Bah, d'ailleurs, des personnes qui sont déjà près du burn-out ou qui ont juste envie de passer plus de temps avec leurs parents, leurs amis, leurs enfants, leurs amoureuses, et bah, ces personnes-là vont voir leur qualité de vie décroître. Et donc là, on comprend bien que l'agitation monétaire, c'est une histoire d'équilibre. Quand il n'y a pas assez d'activité économique, bah bien sûr, il faut produire plus. Parce que si vous n'avez pas les biens et services dont vous avez besoin pour pouvoir satisfaire une situation de destitution, et c'est le cas dans beaucoup de pays en développement, bien sûr, il faut les créer. S'il n'y a pas assez de médecins, s'il n'y a pas assez de médicaments, s'il n'y a pas assez de vélo cargo, s'il n'y a pas assez de places de crèche, bien sûr. Mais à partir du moment où la pauvreté, c'est-à-dire l'insuffisance matérielle, n'est plus lié à un problème de production, mais devient un problème de distribution ou d'organisation ou de qualité, bah là, en fait, appuyer sur le bouton croissance, c'est normal que ça ne vienne pas augmenter la qualité de vie. Et c'est pour ça, on se moque un peu des Suisses, on peut se permettre, que les Suisses, quand le classement du World Happiness Report, qui font un classement tous les ans des pays où il fait le mieux vivre, avec un tableau de bord synthétique d'indicateurs de qualité de vie. Si je me souviens bien, quand l'indicateur a été créé au début des années 2000, la Suisse était très fière parce qu'elle était en position numéro 1, vraiment le pays le plus agréable au monde. Et je crois que cette année, elle est numéro 13. Donc elle s'est fait doubler, on passe par le Costa Rica, je crois qu'elle est en sixième position, et bien sûr par tous les pays scandinaves. La France est tellement bas dans le classement, je ne me souviens plus, 36 ou je ne sais quoi. Et donc on voit qu'à partir, en gros, et ça c'est en théorie, on appelle ça l'hypothèse de la saturation. Mais ça veut dire quelque chose, c'est-à-dire au bout d'un certain moment, produire et consommer plus de marchandises ne vient pas contribuer au bonheur parce que nous sommes déjà saturés. Et quand je vous dis ça, bah, imaginez si je vous donnais, bah, si vous n'avez pas, imagine, vous n'avez pas de vélo pour vous déplacer à Bordeaux, c'est quand même embêtant. Je vous donne un vélo, génial, besoin satisfait, satisfaction d'un besoin. Peut-être qu'il y a de l'activité économique liée à la production du vélo, on a de la croissance. Et là, l'année d'après, je vous offre un deuxième vélo. Là, vous allez me dire, bon, déjà, génial, peut-être c'est une autre couleur, vous êtes content, vous le mettez à côté, très très bien, mais bon, on va dire que les gains en termes de bien-être, de passer de zéro vélo à un vélo, sont supérieurs à le gain marginal de passer de un vélo à deux vélos. L'année d'après, je vous offre deux vélos en plus des deux vélos que vous avez déjà. Voilà, en fait, bon, déjà, vous commencez à vous poser des questions. Vous savez même plus où les mettre.
Vous ouvrez un garage.
Alors, vous ouvrez un garage. Et donc, on se rend compte que, en fait, vos besoins de mobilité sont déjà satisfaits. Vous êtes au-delà de votre point de saturation. Mais là, attention, dans la vraie vie, les vélos, ils ne sont pas offerts. Ils sont achetés. Donc, c'est pour ça qu'on se rend compte de continuer à s'entêter à croître. Ça voudrait dire, en fait, de continuer à sacrifier des heures pour produire des choses dont nous n'avons pas besoin. Et c'est pour ça que là, on peut atteindre un point où non seulement la croissance n'est plus corrélée avec la qualité de vie, mais ça devient ce qu'Armand Daly appelait une croissance anti-économique. C'est-à-dire que ces heures, sacrifier à produire ces vélos dont nous n'avons pas besoin. Par vélo, là, c'est quelque chose d'assez utile qu'on aime bien, mais remplacé par des heures de service dans des agences immobilières ou dans des agences publicitaires. Vous inquiétez pas, tout le monde en aura pour son grade ce soir. Et ben là, on voit que ça peut venir justement dégrader la qualité de vie parce que ça vient ronger un petit peu notre, ce qu'on appelle notre budget temporel. Et on le verra, bien sûr, nos budgets écologiques.
Ben justement, on va venir tout de suite, parce qu'on a parlé du bien-être, on va poursuivre sur, ce thème-là, mais vous avez parlé de nature très vite dans notre entretien, et toute cette recherche pose la question des limites planétaires, en fait, de corréler la croissance, les limites planétaires, d'harmoniser tout ça, et de trouver quelque chose, un fonctionnement finalement vertueux, ce qui est presque un appel à l'intelligence collective, mais on y viendra peut-être un peu plus tard, ce qui n'est pas gagné. Mais en tout cas, les limites planétaires, vous l'écrivez dans le livre, sur les 9 limites, 7 sont déjà dépassés. On en est où, Timothée Parik, là-dessus? On le sait, hein, et au-dessus, surplombe le réchauffement climatique. Mais allez-y.
Alors, la situation... Alors déjà, les limites planétaires, c'est un cadre qui nous permet de mesurer quantitativement cette notion de développement durable, ou plutôt même de durabilité ou de soutenabilité. Une économie durable ou soutenable, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une économie où l'empreinte écologique est inférieur à la biocapacité des écosystèmes. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est une histoire de taille et de vitesse. Donc imaginez si vous dépendez de poissons à côté d'un lac, si vous pêchez les poissons plus vite qu'ils ne peuvent se reproduire, au bout d'un moment, effondrement de l'écosystème, et il n'y a plus de poissons. En fait, les limites planétaires, elles viennent pour chacune des 9 limites définir un seuil quantitatif à partir duquel on prend le risque d'avoir une dégradation irréversible d'un écosystème qui, une fois dégradé, ne pourrait plus produire des services écosystémiques. Le climat, par exemple, le seuil, là, il se compte en degrés de réchauffement. À partir d'un certain degré de réchauffement, eh bien, il se met à mal fonctionner. Okay ? Et quand le climat mal fonctionne, ça apporte des événements climatiques extrêmes, des canicules, toutes sortes de choses, en fait, qui nous embêtent en termes de qualité de vie directe et aussi en termes de fonctionnement économique. Donc c'est pour ça qu'on essaye de ne pas dépasser les limites planétaires. Malheureusement, à l'échelle du globe, vous l'avez dit, les limites planétaires sont dépassées. Et nous, ce qu'on fait quand on fait de la macroéconomie écologique, c'est qu'on se pose la question de qui est responsable pour ce dépassement des limites planétaires. C'est un peu comme un cluedo écologique. Je vous donne tout de suite la réponse, les pays riches. C'est des chiffres que j'essaie d'en reprendre quelques-uns dans le livre, et il y en a énormément qui sont sortis cette dernière décennie, mais la majeure partie du dépassement de ces limites planétaires est le résultat des activités économiques des pays du Nord, et même plus précisément des classes les plus riches de la population dans ces pays riches. Et donc il y a une inégalité qui est assez phénoménale. On entend souvent ce chiffre que les 10% les plus riches à l'échelle de la planète sont responsables d'à peu près la moitié des émissions. Donc ça, c'est vrai à un moment T, mais ces 10% sont responsables d'une part beaucoup plus importante, historiquement, des émissions dites accumulées. Donc, une fois qu'on a ça, nous, ça nous permet d'avoir un point de départ. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je regarde le dépassement des limites planétaires de la Suisse ou de la France ou d'un pays, ça nous donne une vision de « Ok, là, on est dans le rouge, il va falloir revenir ». Donc la phrase « revenir sous le seuil des limites planétaires », ça nous donne un cadre quantitatif pour faire transition écologique. Transition écologique, c'est pas juste interdire les pailles et voilà, faire des... Enfin, c'est vraiment, c'est vous êtes en dépassement des limites planétaires, il faut revenir sous le seuil des limites planétaires. Et c'est pas un « il faut revenir sous le seuil des limites planétaires quand vous pouvez », non. C'est, bien sûr, chaque limite planétaire, elle a une dynamique particulière, comme le climat. Donc, il faut atteindre la neutralité climatique avant d'atteindre ce que les scientifiques appellent un point de basculement. Donc là, ça devient très effrayant. Point de basculement, c'est le moment où, par exemple, pour le climat, le réchauffement est tel qu'il va enclencher le dysfonctionnement d'autres systèmes terrestres qui vont faire qu'on s'enferme dans un scénario catastrophique de dérèglement écosystémique. Et donc, une fois qu'on a quantifié ça, c'est bien parce que ça nous donne une feuille de route. Et c'est important parce que la décroissance, comme concept, vous vous souvenez donc le bloc numéro 2, cette idée de pourquoi est-ce qu'on voudrait faire ralentir une économie? Pourquoi est-ce qu'on voudrait produire et consommer moins dans un pays comme la France? C'est bizarre. Enfin, en économie, on s'est jamais posé la question. Moi, licence, master, doctorat, enfin, j'ai jamais entendu parler de décroissance dans mes cours, et on n'entend jamais parler aux infos parce que la croissance, c'est l'objectif d'une économie, et quand on l'a pas, c'est mal, c'est une récession, on essaie de l'éviter. Alors déjà, première remarque, et on l'a vu, c'était le résultat de la première question, c'est un petit peu bizarre, vu que la croissance n'est pas corrélée à la qualité de vie, pourquoi est-ce qu'on ferait pas des politiques de bien-être au lieu de faire des politiques d'appuyer sur le bouton du PIB en espérant que ça découle en bien-être. Bon, en parlant d'intelligence collective, ça serait peut-être le premier chantier. Je pose ça là. Deuxième chantier, bah faire des politiques de croissance, ça peut être contre-productif écologiquement dans une économie qui est déjà dans le rouge. Tous les pays à haut revenu sont dans un rouge abominable, on va dire. Enfin, vraiment, on a un déficit écologique qui est énorme. Donc le chemin pour revenir sous le seuil des limites planétaires est vraiment très long. Et on va dire que ce chemin est d'autant plus long que la richesse est grande. Alors là, pourquoi, vous allez me dire, bah, parce que la richesse, qu'est-ce que c'est? La richesse, c'est l'accumulation de l'activité économique sur une grande période. Et si les activités économiques de production et de consommation, bah, elles sont liées aux pressions sur l'environnement, c'est normal que les pays très riches, bah, ils aient l'ombre de leur activité économique et donc des empreintes macroécologiques accumulées très élevées. Et donc aujourd'hui, quand on fait les calculs et qu'on se dit « Ok, très bien, là on est à ce niveau d'émissions par an et on veut être ici et on a 5 ans. » Et là, on calcule ce qu'on appelle les intensités biophysiques de l'économie. Donc par exemple, quelles sont les empreintes eau, matière, sol, carbone, de la production d'un vélo, d'une heure de service bancaire, d'un soin, de toutes ces choses-là, et on regarde, est-ce que ça fonctionne, en fait? Est-ce qu'on peut continuer à produire plus tout en revenant sous le seuil des limites planétaires? Ça, on peut pas. Ça, c'est clair. B, est-ce qu'on peut maintenir la taille de notre économie? Donc ça, on appelle ça une croissance zéro, parce que si vous avez 0% de croissance, ça ne veut pas dire que l'économie s'arrête. C'est-à-dire qu'elle fait exactement la même taille que l'année dernière. Ce qui n'est pas désastreux pour des économies qui sont arrivées dites à maturité, si vous n'avez pas l'émergence de nouveaux besoins, ou même si vous avez la disparition d'anciens besoins, et ben en fait, une croissance zéro, l'économie, en fait, elle est stable, elle est bien. Ou, là, malheureusement, vu que nos économies sont tellement énormes, même maintenir leur métabolisme à leur taille actuelle, en fait, demande beaucoup trop d'énergie et de matériaux. Donc, scénario numéro B, malheureusement, ça ne marche pas non plus. Il ne reste qu'un seul scénario. Si l'on veut véritablement revenir sous le seuil des limites planétaires avant d'engendrer des dommages potentiellement irréversibles et catastrophiques qui feraient ressembler notre avenir à un mix entre Mad Max et Waterworld, il va falloir donc produire et consommer moins. Et là, ça nous amène à ce concept absolument barbare de décroissance qui a émergé vraiment de ces réflexions scientifiques sur la soutenabilité des économies des pays du Nord.
En tout cas, on voit que c'est pas gagné dans le débat politique, parce qu'il y avait une décision européenne d'interdire les moteurs thermiques à horizon 2035. Cette échéance-là a été repoussée. On sait que pourtant tout l'impact des gaz à effet de serre, en tout cas de toute cette technologie-là, des moteurs thermiques sur l'environnement, là c'est repoussé. Le discours politique se heurte à la réalité sociale, Timothée Parikh. Et c'est là où comment on fait avancer un tel discours.
Alors moi, ma stratégie, elle est peut-être naïve, mais de ma perspective, donc en tant qu'universitaire et en tant que scientifique, ce que j'essaye de faire, c'est d'apporter des connaissances scientifiques pour espérer, vraiment espérer, que les discours politiques s'en saisissent pour éviter de faire n'importe quoi. La transition écologique dans un pays comme la France, et malheureusement c'est assez généralisable à beaucoup d'autres pays, c'est un peu le Far West. Donc on a des éléments de langage et des politiques environnementales qui correspondent à aucune réalité scientifique, qui correspondent à des espèces d'agendas un petit peu comme ça, qui sont le résultat d'alliances politiques, de compromis, des choses qui sont politiquement correctes, on va dire, mais qui ne correspondent pas du tout à ce qu'on devrait faire dans la réalité vraie. Et donc moi, l'un de mes rôles, je pense, c'est, et malheureusement c'est pas un rôle agréable parce que je deviens un petit peu docteur douche froide, de venir à chaque fois et d'expliquer « Ah ben, c'est génial, votre politique de croissance verte, c'est cool, mais ça marche pas. » C'est genre biophysiquement, ça fonctionne pas. et donc vous pouvez essayer de la faire, mais ça va pas marcher. C'est-à-dire que c'est théoriquement impossible. C'est comme si vous aviez une candidate en 2027 qui vous promettrait que on pourrait voler et respirer sous l'eau. On peut construire un agenda politique autour de ça, on a même le droit d'y croire. Après, vous allez demander à quelqu'un qui fait de la physique et de la biologie, il va vous dire d'ici 2027, on n'aura pas de branchies et des ailes. Bah, là, les politiques environnementales, c'est un petit peu la même chose. Ça s'inspire de géo-ingénierie, ça s'inspire de grands plans pour réabsorber des émissions avec ce qu'on appelle les technologies d'émissions négatives, ça s'inspire d'une accélération vraiment quasi romanesque des éco-innovations et toutes ces choses-là qui ont perdu, qui ne sont plus du tout connectées avec la réalité scientifique. Et bien sûr, bon, en France, c'est encore gentillet. Les États-Unis, là, c'est complètement... C'est même plus une déconnexion avec la science. C'est que là, les ouvrages scientifiques sont utilisés pour caler les portes. Ou même plus, ont été recyclés en boîte à pizza. Donc, est-ce qu'on va le faire? Et depuis 1970, on a quand même, chaque année, des chercheurs, des chercheuses qui publient des livres, qui publient des articles, qui font des conférences. Et depuis 50 ans, est-ce qu'on a intégré politiquement cet impératif de durabilité? Même pas. On va dire juste l'idée même d'écologie, elle est difficile à vendre politiquement. Même aujourd'hui, en 2026, et on verra l'année prochaine, mais j'ai pas l'impression que ça soit une thématique prioritaire dans le débat présidentiel.
Mais clairement donc, pas.
Clairement pas, donc vous êtes d'accord. Et ensuite, quand on zoome sur l'écologie, et qu'on se débarrasse un petit peu de l'écologie des années 90 sur les petits comportements, les pailles et le compost, les choses comme ça, qu'on se concentre vraiment sur une écologie politique, une écologie structurelle avec des concepts d'économie circulaire, de bioéconomie, de décroissance, de post-croissance, ces choses-là, voilà, on a perdu tout le monde. Parce que même les partis qui sont intéressés pour parler d'écologie, eux-mêmes ne vont pas aller piocher dans ce terreau scientifique parce que c'est trop technique, parce que c'est trop compliqué ou parce que surtout on prend le risque de perdre les peu de votes qu'on avait déjà en parlant d'écologie. Donc là, c'est un peu déprimant. Hein. J'espère qu'on arrivera à rebondir sur une bonne nouvelle, mais politiquement, c'est pas gagné.
En tout cas, vous faites un avertissement, vous l'écrivez de manière très claire et il n'y a pas d'ambiguïté. S'il est impossible de verdir suffisamment la production et la consommation, il faudra décroître. Décroissance choisie ou effondrement subi. Finalement, l'alternative est mince.
Oui, alors c'est les deux options qu'on a. Si on avait aujourd'hui une machine à remonter dans le temps et qu'on pouvait revenir en 1972 à la publication du rapport Meadows, et vraiment on intégrerait ce résultat en se disant, bon, ok, là notre dépendance aux énergies fossiles, soit un jour ça va nous amener vers un climat indésirable, soit un jour ça va nous amener dans des situations où géopolitiquement ça sera difficile d'obtenir du pétrole. Et donc on va prendre une décennie qui va pas être facile, une décennie de grandes transformations pour décarboniser notre système énergétique. Et quitte à faire ça, on va se poser la question de la sobriété énergétique et se dire, bon, l'énergie la plus renouvelable, c'est celle qu'on peut se permettre de ne pas consommer. Et donc, on va se poser la question des usages, du partage, de toutes ces choses-là. Ça, on l'aurait fait. Aujourd'hui, on serait excessivement content. Il y aurait une crise énergétique mondiale autour du pétrole. Pas notre problème. Très content. Et si une grande partie des pays l'avait fait, le changement climatique n'aurait pas lieu. Donc là, on se mettrait bien sûr... les humains ont toujours des problèmes, donc on aurait d'autres priorités. Mais au moins, on aurait le luxe de pouvoir se faire la guerre dans un monde qui ne se réchauffe pas. Ça, c'est quand même génial. Donc, aujourd'hui, on commence à ressentir, en fait, ces effondrements subis. On les connaît. Ça peut être des pandémies qui sont liées aux effondrements de la biodiversité. Ça peut être des moments de pénurie qui sont liés à des événements géopolitiques et des guerres. Ça peut être des canicules ou des sécheresses, ou des événements extrêmes qui sont liés au réchauffement climatique. Toutes ces choses-là, ça peut être la mort globale de communautés d'insectes, liées à l'usage de certains produits chimiques en agriculture, qui là aussi se font ressentir sur les activités agricoles. Toutes ces choses-là, en fait, c'est des effondrements subis. Et des collègues qui calculent, en fait, le coût de ces effondrements sur le PIB, c'est ça qui est fantastique. Et là, il y avait une étude qui montrait que pour chaque degré en plus, en fait, on s'expose à perdre plusieurs dizaines de pourcents du PIB mondial, en fait. Donc là, on se dit, là, on revient, la décroissance aurait été une stratégie de prévention,
Oui, on aurait fait de la sobriété. Oui, on aurait dû se poser la question du partage. Oui, on aurait dû réorganiser un petit peu l'urbanisme, la manière dont on organise les retraites, la sécurité sociale, la taxation des ressources naturelles, toutes ces choses-là pour que ça puisse fonctionner, pour qu'on puisse prospérer sans croissance. Mais une fois que c'est fait, on serait bien. Aujourd'hui, on fait la politique de l'autruche et on repousse à demain. Mais le problème, on l'a vu, on repousse à demain dans une économie en croissance, molle, mais croissance quand même, et ben on accumule de la dette écologique. Et donc, le plus on procrastine, et ben le plus l'effondrement, il va être vénère, rapide, et donc subi. Et donc, c'est ça qui est triste. C'est-à-dire que la décroissance, si on l'avait commencé dans les années 70, avec un faible niveau de dépassement écologique, facile, de la même manière que le Costa Rica, bon, sa transition de décroissance, vu que le pays est un peu près dans le respect des limites planétaires, c'est juste une petite stabilisation. Les États-Unis, la décroissance, quand vous regardez les courbes sur un modèle macroéconomique, c'est l'équivalent d'une piste, la piste de ski la plus difficile du monde. Nous, en France, ben non, on est aussi, on est sur une bonne petite piste rouge bien compliquée. Et plus on attend, plus ça sera compliqué, et plus ça sera compliqué, plus ça sera politiquement difficile d'en parler. Donc malheureusement, j'ai un peu l'impression qu'on s'enferme dans un cercle vicieux.
Et justement, vous posez, il y a aussi une autre option dans le livre, c'est de produire différemment. C'est-à-dire qu'il y a la décroissance, il faut produire moins, mais il y a aussi une autre option, c'est de produire des biens qui seraient utiles, des biens et des services qui seraient utiles versus des biens et des services qui ne servent pas à grand-chose, si ce n'est à se faire plaisir, le consumérisme. Comment on amène ça?
Alors moi, il y a un cadre que j'emprunte à des chercheurs allemands dans les années 90, donc ça c'est absolument vintage, vraiment un joli cadre théorique à trouver en friperie, qui divise trois grands chantiers d'une transition écologique. Il y a ce qu'on appelle la sufficience ou la sobriété qui consiste à éviter des choses. Ça, on a vu, c'est la grande force du minimalisme, du mouvement pour la lenteur, de la décroissance. Donc éviter des choses, on l'a vu, si par exemple, eh ben, cette conférence à laquelle j'ai été invité à Tokyo, je n'y vais pas. Ça, c'est vachement plus durable que de y aller. Déjà, évitement. Il y a beaucoup de choses qu'on peut éviter en se concentrant justement sur ces activités non essentielles qui ne participent plus à la qualité de vie, qui nous rognent du temps libre et qui, justement, par exemple, les écrans numériques dans les villes pour faire de la publicité pour les fast-foods. Je ne sais pas si ça augmente votre qualité de vie, mais j'ai un peu l'impression quand même que si on les supprimait, on se retrouve avec une ville plus jolie, une expérience sensorielle urbaine beaucoup améliorée, et on ferait baisser notre usage de ressources rares, notamment aussi des ressources humaines. Big up pour ces pauvres personnes qui subissent des écoles de commerce pour se retrouver à faire des pubs pour les nuggets. Donc ça, c'est le premier stade de l'évitement. Mais l'évitement, ça suffit pas, parce qu'une économie, il faut qu'elle continue de produire. Alors, pas forcément d'augmenter son volume de production, mais année après année, il faut quand même construire des maisons, il faut entraîner des médecins, enfin, toutes ces choses. Et puis aussi, la manière dont on va satisfaire des besoins évolue au fil des années. Donc là, déjà, il y a un deuxième bloc qui s'appelle, en anglais, on dit le shift, la substitution, on pourrait dire. Et là, par exemple, en France, on pourrait se dire, bon, bah, le Paris-Biarritz, à partir du moment où vous devez absolument vous déplacer, donc vous n'avez pas pu éviter votre déplacement, bah le faire en train plutôt qu'en avion, c'est quand même vachement plus écologiquement efficace. Donc là, il y a toute une histoire de transition, de se dire des choses que l'on ne peut pas se permettre d'arrêter de produire et de consommer, mais là, il faut changer, les faire en train plutôt qu'en avion, les faire en bus plutôt qu'en voiture, les faire en vélo plutôt qu'en voiture, toutes ces choses-là, en fonction des besoins et des envies de chacun. Mais il y a quand même des manières de rendre le métabolisme économique plus efficient. Alors, quand je dis efficient, c'est plus écologiquement efficient. C'est-à-dire qu'on minimise les ressources naturelles tout en gardant le même niveau de bien-être. Deuxième étape. Et la troisième étape sur le produire mieux, ça, c'est ce qu'on appelle l'éco-efficience. Aussi, on peut se poser la question, donc à partir du moment où on va dire aujourd'hui, on évite des distances de mobilité très bien. On fait beaucoup de transitions, ce qui nous permet d'avoir moins de voitures par habitant parce qu'on peut les partager, parce qu'on prend plus de vélos ou quoi. Mais il y a quand même des voitures qui vont rester. Et ben là, on se pose la question de l'efficience, de dire les voitures qui restent, est-ce que ça va être des voitures de 3 tonnes, hautes comme une maison, qui peuvent aller 0 à 100 en 3 secondes, ou est-ce que ça va être des petites voitures électriques, légères, modulaires, réparables? Là, c'est une question d'efficience. Et là, on se dit, bon, bah, écologiquement parlant, on préférerait avoir des petites voitures légères, électriques, réparables, modulables, partageable. Et donc là, tout s'aligne, en fait. Évitement plus substitution plus efficience. C'est pour ça que le grand débat entre croissance verte et décroissance, alors qui nous aide entre macroéconomistes, c'est vrai qu'on pourrait passer des semaines, mais dans la réalité d'une transition écologique, la croissance verte, elle s'est concentrée beaucoup sur l'éco-efficience, à travers les éco-innovations, changer les technologies qu'on utilise dans certaines industries pour justement arriver à continuer de produire, mais tout en minimisant les ressources naturelles. Ça, c'est des efforts qui sont les bienvenus. Mais si en plus de ça, vous faites de la substitution, et en plus de ça, vous faites de l'évitement, bah, ça va beaucoup plus vite. Sachant qu'il y a ce qu'on appelle des effets rebonds. Alors ça, c'est un terme un petit peu technique, mais quand vous avez des gains d'efficience, par exemple, votre voiture, ça, c'est classique, hein, c'est ce qu'on appelle un effet rebond microéconomique. Imaginez, vous aviez une voiture très polluante, vraiment une vieille voiture que vous avez récupérée, elle a 15 ans, ça fume de partout. Et là, d'un coup, vous achetez une voiture neuve, une petite hybride. Enfin, c'est pas une électrique, mais quand même, elle consomme moins. Vous vous dites, en fait, bon, bah, elle est beaucoup plus verte. Donc, vous allez vous permettre de l'utiliser un petit peu plus que l'ancienne. C'est ça, l'effet rebond. C'est en fait un gain d'efficience qui va rebondir dans un usage. Autre rebond, ce qu'on appelle indirect. Imaginez, vous arrêtez de manger du bœuf parce que vous vous êtes rendu compte que c'est, dans votre alimentation, la première source d'empreinte écologique. Le bœuf, ça coûte très cher. Donc, si vous arrêtez de manger du bœuf et vous mangez du poulet, ou même vous mangez des alternatives végétales, vous allez gagner de l'argent, vous allez économiser. Si à la fin de l'année, vous vous dites, mais c'est quoi ces 2000 balles que j'ai sur mon compte, là ? Allez, les Maldives ! Là, le gain d'émissions niveau alimentation va rebondir en une activité en termes de mobilité. Donc, c'est pour ça, en fait, que la sufficience, le minimalisme, la simplicité volontaire, la lenteur, la décroissance, l'évitement, ça vient éviter les effets rebonds en termes d'efficience. Et c'est pour ça que c'est des stratégies qui doivent être vues ensemble. Et je termine avec ça. Il y a quand même une séquence. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez du film avec Tom Cruise, Minority Report. Et dans Minority Report, c'est de la science-fiction. Vous savez, il y a une équipe de police qui arrive à résoudre des crimes avant qu'ils se passent, avec des prémonitions. Et donc, ils arrivent juste au moment où la personne va assassiner quelqu'un et elle l'arrête avant même que le crime se passe. Ben, en fait, le minimalisme de la décroissance, c'est un peu ça. Vous allez éviter un déplacement avant même qu'il cause un dommage environnemental. C'est pour ça que c'est beaucoup plus efficace. Et on s'en est rendu compte quand on fait des analyses macroéconomiques de la pandémie. Alors la pandémie, ce n'est pas une expérience de décroissance la plus joviale qu'on puisse penser. Mais les avions qui n'ont pas volé pendant le confinement n'ont pas émis de gaz à effet de serre. Le jour, vraiment, où vous arrêtez de faire voler un avion, vous ne conduisez pas une voiture, les émissions sont évitées au temps zéro. Alors que si aujourd'hui, vous investissez de l'argent pour des innovations, pour trouver une alternative au kérosène pour faire voler des avions verts à un moment donné, oui, peut-être, maybe, c'est un pari, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Donc, il faut prendre ça en compte, de se dire que eh ben, tout ce qu'on peut minimiser à l'étape numéro 1 de l'évitement, on le fait. Ensuite, tout ce qu'on peut substituer, on le fait. Et ensuite, véritablement, on concentre nos efforts sur ce qu'on n'a pas réussi à éviter et substituer. Et là, on met le paquet pour avoir l'éco-efficience la plus efficace possible.
Alors comment on fait, Timothée Parik, pour faire c'est une transition écologique, on a bien compris, mais c'est aussi une transition politique, c'est une transition de société. Dans une démocratie où on se heurte à la question sociale, comment on fait? Puisque on imagine que si vous discutez avec des politiques, à un moment, on va vous demander quelque chose du clé en main, du coût humain, c'est le mode d'emploi. C'est-à-dire que derrière, il faut convaincre, avoir des budgets. On est dans un pays ultra endetté. Comment on règle cette question-là? Parce qu'on se dit que la démocratie va être compliquée pour absorber quelque chose qui doit être partagé, alors que ce sera vécu comme une contrainte. On parle d'écologie punitive.
Je suis content d'entendre cette question, car ça me permet de enfin faire une annonce publique de ma présentation. Non, je ne suis pas candidat pour les élections présidentielles de 2027.
Mais la place, en tout cas, c'est ouvert. Hein. Il y a même un embouteillage. Si vous voulez vous y ajouter,
oui, ils sont déjà beaucoup. par contre, dans la question du mode d'emploi, elle est fondamentale. Et c'est une question que je me suis posée dans ma thèse. Alors, j'ai écrit une thèse théorique pendant mon doctorat sur la décroissance qui était très longue. Elle faisait 900 pages. Et Ralentir ou Périr venait un petit peu faire la synthèse de la première partie. Là, je travaille sur la synthèse de la deuxième partie. Mais il y a une troisième partie encore plus obscure. Qui s'appelait
déjà là, il y a quand même la question politique.
Oui, à la fin. On commence. Je teaser trailer, mais dans la thèse, il y a vraiment une partie qui s'appelle je crois que je l'avais acheté recette de décroissance. Je sais pas mode d'emploi, mais on y est quand même. Où j'avais étudié donc cette question du séquençage de politique de décroissance. Et pour vous dire séquençage, parce que si vous voulez donc réduire la production et la consommation pour alléger l'empreinte écologique, d'une manière où c'est à peu près démocratique, à peu près juste socialement et sans trop dégrader la qualité de vie, ça fait pas mal de contraintes. Et donc là, dans la littérature, nous, avec des collègues, on avait fait un article il y a quelques années, on avait identifié 530 instruments de décroissance. Donc il y en a beaucoup, ça peut être des choses qu'on connaît, par exemple la tarification du carbone, ça c'est un instrument qui permet de faire quelque chose, un petit truc. Mais il y a aussi d'autres choses, ça peut être une stratégie de réduction du temps de travail, donc j'en ai parlé, pour éviter notamment le chômage pendant une période de transition. Donc ça, on voit qu'il y a des politiques un peu proactives, on avait même contractives, donc de se dire, ah bah tiens, on va interdire enfin la publicité pour les vols en avion. Ça, on va dire que ça participe à une culture de l'évitement et du minimalisme sur les billets d'avion. Moi, ça évite de donner envie à des gens qui n'y avaient pas pensé de prendre l'avion. Et ensuite, il y a des politiques d'accompagnement, de se dire, par exemple, bah, dans l'aviation, vu qu'ils vendent moins de billets d'avion, il y a une contraction de l'activité. Et donc, ça, on ne veut pas que ça génère du chômage indésirable. Et donc, on va se dire, bah, peut-être, au lieu de licencier une partie des employés de l'aérien, on va avoir une stratégie de réduction du temps de travail dans l'aérien. Donc ça, c'est juste pour vous montrer... Ça peut être une petite politique d'accompagnement. C'est quelque chose de classique hein, que les pays font assez souvent en période de crise pour éviter justement le chômage indésirable. Et il y en a beaucoup d'autres avec des instruments un petit peu farfelus. Donc, par exemple, la sécurité sociale de l'alimentation, qui est l'un des instruments qui est souvent mobilisé dans ces transitions. Ça peut être aussi beaucoup d'instruments qui sont aujourd'hui qui existent dans l'économie sociale et solidaire, que ce soit la garantie locale de l'emploi, les coopératives à but non lucratif, les monnaies alternatives, la logique des communs, donc tout ce qui est, par exemple, ludothèque, ressourcerie, repère café, banque de temps, qui sont en fait des, on va dire, des institutions de partage. Alors, vous aimez bien le partage. Est-ce que c'est le partage? Pourquoi c'est intéressant, écologiquement, le partage? Parce que tout ce que vous partagez, vous n'avez pas à le posséder individuellement. Et donc, la perceuse qu'on partage... Allez, on est beaucoup dans cette salle, mais je veux une petite perceuse pour tout le monde, ça pourrait peut-être tenir... un escabeau pour tout le monde, peut-être. Et bien, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de produire 200 escabeaux. Donc ça, écologiquement, c'est vachement bien. Donc c'est pour ça qu'en fait, ça devient des instruments de décroissance, parce que c'est utile pour nous quand on fait ce grand scénario. Et là, la question à 1 milliard, c'est est-ce qu'on peut faire une feuille de route qui connecte tout ça? Et là, la réponse est bien sûr... alors, c'est possible analytiquement, c'est très compliqué... Et vous allez voir que quand on fait ces feuilles de route, c'est déjà beaucoup plus compliqué que les programmes politiques dont qu'on a l'habitude de voir, qui font un peu fascicule, j'ai envie de dire. Comparé, enfin, quand vous regardez un programme politique, c'est des éléments de langage, c'est des grands actes politiques, catalogue, mais il n'y a pas trop de, détails. Enfin, les programmes politiques en France, c'est pas le catalogue Ikea. Hein. Donc c'est plus, on vous donne, oui, ça va être bleu. C'est un truc qu'on pourra s'asseoir dessus, peut-être. Je sais pas si c'est une chaise, un tabouret ou un pouf. Mais alors que là, les feuilles de route, nous, qu'on essaie d'élaborer, c'est quand même très précis. Et je vais vous en parler d'une qui est quand même assez impressionnante, qui vient de sortir, qui sera validée cet été, qui vient d'être publiée par les Nations Unies. Donc, ce n'est pas non plus juste le produit d'un travail universitaire, mais c'est quand même quelque chose d'assez institutionnalisé. Et les Nations Unies viennent de publier une feuille de route qu'ils ont appelée pour l'éradication de la pauvreté au-delà de la croissance. Donc ça aussi, ça fait longtemps que ça bouillonne, on va dire, ces réflexions écologiques sur le fait qu'on ne peut plus croître à tout prix, et donc il va falloir faire face aux problèmes de notre temps, notamment l'éradication de la pauvreté, beaucoup dans les pays du Sud, mais même dans des pays comme la France, mais sans compter sur la croissance. Et donc là, cette feuille de route, c'est le terme même utilisé par les Nations Unies, elle est composée de 80 instruments, donc qui ne sont pas des instruments de décroissance, mais qui sont partagés, qui viennent aussi de la littérature sur la décroissance, pour arriver à faire fonctionner une économie au-delà de la croissance. Et là, je vous en donne un, par exemple, qui est assez symbolique, parce qu'on pourrait se dire, mais okay, déjà, l'étape première, est-ce que ça ne serait pas de changer d'indicateur? Parce qu'on l'a vu, on fait des politiques de croissance, on compare la prospérité des pays en fonction de leur PIB par habitant. Si c'est pas corrélé à la qualité de vie, et si même ça peut devenir un indicateur anti-économique, est-ce que c'est pas un peu stupide? La réponse est oui. Autre initiative des Nations Unies, qui est sortie il y a un mois, un nouveau tableau de bord censé remplacer le PIB, composé de 31 indicateurs de bien-être social et écologique. Donc là aussi, on voit que c'est un game changer de se dire, ah bah tiens, on remplace le bon vieux thermomètre monétaire du PIB par un tableau de bord avec plusieurs indicateurs qui nous permettra de naviguer cette transition et de prendre des choix politiques qui ne soient pas plus de PIB ou moins de PIB. Parce que, au final, entre macroéconomistes, ça peut être un débat intéressant théorique, mais politiquement, c'est stérile. Donc là, on voit que des nouveaux indicateurs et ensuite plein d'instruments qu'on peut mettre dans des différentes séquences qui vont chacune avoir des avantages et des inconvénients, ça, en fait, ça nourrit un débat politique qui peut être intéressant. Et le troisième élément, bien sûr, c'est que pour que ce débat politique puisse être intéressant, il faut inviter les gens à y participer. Donc les conventions citoyennes, les tables de quartier, les budgets participatifs et tous ces éléments en fait, de renforcement de la démocratie sont nécessaires parce qu'à partir du moment où vous voulez faire une transition écologique, ça veut dire que vous allez modifier beaucoup de choses dans l'économie. L'économie, c'est prédominant dans nos vies. Et donc, ces choses, pour les modifier, il va falloir prendre des décisions. Et donc là, on voit qu'on a besoin de muscler notre démocratie, notamment locale, délibérative, participative, pour arriver à choisir ces séquences qui ne vont pas être les mêmes. Qui ne vont pas être les mêmes dans un petit village de montagne ou dans une grande ville comme Bordeaux ou dans un quartier ou dans un pays du Sud, dans un pays du Nord. Ce qui est important, c'est qu'on ait des options. Et donc, moi, j'espère que les prochaines présidentielles et même la vie politique en général va venir s'abreuver de ces travaux pour élargir l'arbre des possibles, éviter ces discours un petit peu catastrophistes. Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et vous l'avez mentionné, c'est un discours dangereux de se dire, par exemple, il faut absolument faire croître l'économie parce qu'on est endetté. Ou il faut absolument, par exemple, faire croître l'économie parce qu'il y a de la pauvreté en France. Ou, un grand classique, il faut absolument faire croître l'économie parce que ça va ruisseler et réduire... Enfin, vous rigolez, mais c'est... Enfin, parce que c'est drôle. Parce qu'on sait que c'est un enfumage, encore une fois, complètement déconnecté avec toutes les travaux scientifiques sur les inégalités, genre ever. Mais c'est justement très important de venir mettre au défi ces soi-disant lois naturelles de l'économie pour comprendre qu'en fait, non, l'économie, elle a une plasticité anthropologique. On dit que c'est une institution socialement construite qui peut être socialement déconstruite et reconstruite comme on veut. C'est administratif. Mais même des choses énormes comme l'argent. L'argent, on l'a inventé, on l'imprime nous-mêmes. On décide quelle couleur il a, les petits symboles, les trucs, tout ça. C'est des trucs entre humains. C'est des trucs de colloque. Par contre, la chose dont on ne décide pas, c'est la biodiversité, l'équilibre climatique, l'état des glaciers, les micro-organismes dans les sols. Toutes ces choses-là, malheureusement, on a du mal à négocier. Et on ne peut pas, genre dans un monde à 4 degrés, où on se rendra compte qu'à 50 degrés par jour, ça devient difficile de travailler, on ne peut pas faire pouce, on revient au climat des années 60. Alors que monétairement, on peut faire pouce, et on n'en a pas parlé, mais des pouces, en ce moment, il y en a des exceptionnels, notamment sur la défense. C'est-à-dire en économie, on avait cette règle un petit peu, mais sacrée, comme quoi les déficits publics étaient limités par des règles, notamment au sein de la zone euro. Et là, d'un coup, faire... Oui, non, mais quand il y a la guerre, on peut faire sortir les dépenses d'armement du... Ça, c'est bon, ça compte pas.
Les dépenses d'investissement de l'armement sont sorties de la règle des 3%.
Exactement. Alors ça théoriquement, c'était impossible. Donc maintenant, on peut se dire, mais attends, mais les investissements très importants dont on a besoin de faire aussi pour la transition écologique, pourquoi est-ce qu'on nous rabâche depuis des décennies que c'est impossible de les sortir de la règle des 3%?
Le Green Deal n'a pas vu le jour.
Alors, le Green Deal n'a pas vu le jour, mais enfin, il a quand même vu le jour pendant un petit moment. Il a existé.
Très court.
Très court. Et une autre innovation donc de nerd, on disait qu'on pouvait les banques centrales ne pouvaient pas imprimer de l'argent. Ça, c'était un gros truc où non, on ne pouvait pas, c'était impossible, ça allait mener à une hyperinflation, l'effondrement sociétal ou quoi. Et au milieu des années 2010, à un moment donné, la Banque centrale du Japon, elle s'est dit bah, en fait, on va juste essayer. Et ensuite, toutes les banques centrales se sont dit « Waouh, elle l'a fait !» Et en fait, tout le monde s'en fout. La Banque centrale européenne s'est mise aussi à juste racheter des titres financiers sur les marchés secondaires, donc à injecter des nouvelles liquidités dans l'économie. Ça s'appelle de l'assouplissement quantitatif. On a injecté 6 milliards depuis, 3 milliards pendant le Covid, 3 milliards après. Enfin, c'est des choses qui sont complètement possibles. Et là aussi, les écolos, où ça fait 50 ans qu'on leur dit qu'il n'y a pas d'argent pour investir dans la transition, ils font « Ah ouais !» Sachant qu'en plus, c'est quand même assez drôle parce que l'argent injecté sur les marchés financiers s'est retrouvé principalement dans des investissements fossiles. Donc on a fait le contraire, c'est-à-dire on a créé de l'argent nouveau et on l'a investi dans les énergies fossiles, alors que soi-disant c'était impossible de justement injecter de l'argent dans la transition écologique. Donc le point que je veux faire ici, c'est que en économie, tout est possible. Enfin, c'est juste une question de se mettre à corps. Donc bien sûr, il faut un système politique. Le système politique peut
qu'il supporte
s'auto-limiter. Donc aujourd'hui, j'ai un peu l'impression que si on veut ouvrir l'arbre des possibles en économie pour faire face à la situation écologique, il va falloir aussi ouvrir l'arbre des possibles en politique.
Juste pour aller dans ce sens-là, les théories de la décroissance ont aussi leurs adversaires farouches, et notamment ceux qui estiment que la technologie viendra aussi régler ces problèmes par rapport aux limites planétaires, avec les technosolutions. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Puisqu'on parlait de l'aérien tout à l'heure, l'aérien est en train de faire sa mutation, de préparer des biocarburants, etc. etc. En tout cas, ça avance dans ce sens-là. Et pour autant, ça rentre aussi dans le débat public.
Alors ça, c'est une réponse, on peut l'avoir scientifiquement. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont assez bien étudiées. On sait aujourd'hui, par exemple, chaque année, dans les derniers 10, 20, 30 ans, quels ont été l'effet des éco-innovations sur, par exemple, les émissions de l'aérien. On peut calculer aussi l'effet rebond. On voit que l'aérien, en fait, les émissions continuent d'augmenter parce que les gains d'éco-efficience sont plus qu'absorbés par une augmentation du volume. Et on peut se poser la question, on peut regarder les brevets qui sont en préparation et se dire, est-ce que dans les 2, 3, 4, 5 prochaines années, va y avoir un breakthrough vraiment sur, par exemple, les carburants alternatifs. Et là, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de raisons d'être sceptique. Enfin, la première, elle est classique dans ce genre de transformation. C'est-à-dire qu'on nous dit, par exemple, que les premières deadlines pour le climat, c'est 2030. 2030, c'est dans 4 ans. Quand vous achetez un avion, vous êtes une compagnie aérienne, la durée de vie moyenne d'un avion, c'est 30 ans. Vous l'achetez aujourd'hui, vous allez l'utiliser jusqu'aux os, parce que vous êtes une entreprise commerciale à but lucratif, vous n'êtes pas là pour faire de la transition écologique. Et donc, même quand bien même, aujourd'hui, si on avait un avion à eau, vraiment, ou pire, vraiment, la ressource la plus renouvelable, un avion qui fonctionnerait à partir des tweets de Donald Trump, ça prendrait vachement de temps, parce qu'il faudrait que cet avion, il faudrait le temps de les produire pour remplacer tous les avions d'aujourd'hui. Il faudrait ensuite que ces avions, ils arrivent en fin de vie. Et même ça, en fait, ça nous amènerait de plusieurs décennies. Pareil, si vous voulez dire, OK, mais bon, ces avions, peut-être ça serait des voitures électriques. Bon, il va falloir réouvrir des mines pour notamment avoir accès à des métaux rares qui nous permettent de construire des batteries. L'ouverture d'une mine, c'est une petite décennie. Donc là, voilà, d'ici 2030, c'est râpé. C'est ça le truc, la minimalisme, l'évitement, c'est ultra rapide. Il vous suffit de pas faire un truc que vous pouvez faire. L'éco-efficience, c'est plus compliqué parce qu'il faut inventer un truc. Ensuite, il faut que ce truc inventé devienne économiquement acceptable pour les acteurs en place. Ensuite, il faut que ça soit fait. Et non seulement il faut que ça soit fait, mais il faut que ça soit pas ce qu'on appelle une transition par l'addition ou un empilement technologique. Jean-Baptiste Fressot, l'historien, en parle très bien. Donc, si par exemple, comme aujourd'hui, vous avez des énergies renouvelables, mais vous les rajoutez en plus de l'infrastructure fossile que vous avez, vous n'avez pas décarboné votre système énergétique. Il faut faire de l'innovation, mais aussi de l'exnovation. Vous faites rentrer les pompes à chaleur et vous faites sortir le chauffage au fioul. C'est pas juste vous construisez plus de maisons avec des pompes à chaleur et vous gardez les anciennes avec du chauffage au fioul. Et ça aussi, ça prend du temps et c'est compliqué. Et donc, quand on met tous ces arguments l'un après l'autre, et j'ai essayé de faire ça dans mes travaux, notamment dans le chapitre 2 de Ralentir ou Périr, on arrive quand même à des sérieux doutes sur la capacité du développement technologique de nous faire atteindre... De rattraper le temps perdu, sachant qu'un dernier argument qui est quand même assez, assez fort, c'est qu'aujourd'hui, le développement technologique, vous savez, c'est pas les départements de sociologie à l'université qui le font. C'est principalement des multinationales et des grandes entreprises. Ces multinationales, ces grandes entreprises, leur priorité numéro un, c'est pas de trouver une solution au changement climatique. La priorité numéro un, c'est peut-être d'inventer, comme on a inventé ces dernières décennies, un méga chalutier qui fait la taille d'une ville, qui va venir racler tous les fonds marins et défoncer la biodiversité. Ça, c'est de l'innovation, c'est du progrès technologique. Et ça rapporte. Et donc, on investit dedans. Et donc, quand on regarde la division des brevets, pour les innovations vertes qu'on a, vous avez énormément d'innovations fossiles. La fracture hydraulique, la localisation par GPS de nouveaux gisements pétroliers, enfin toutes ces choses qui créent des nouveaux problèmes. Mais c'est ça le problème du capitalisme, vu que les gens qui créent des problèmes sont mieux payés que les gens qui sont censés trouver des solutions, bah, on a quand même un effet où les solutionneurs, solutionneuses n'arrivent jamais à véritablement réparer l'intégralité de tout ce qui a été pété par les capitalistes qui essayaient justement, eux, de faire un profit en venant extraire plus de ressources naturelles.
En tout cas, comme il nous reste quelques minutes avant de conclure, Timothée Paris, vous parlez de capitalisme, et dans votre livre, il y a un avertissement qui pourrait mettre tout le monde d'accord, y compris les capitalistes. Ramener aussi le champ de l'économie sur celui du politique, vous l'écrivez, les coûts de l'action vont être inférieurs à ceux de l'inaction. Ne rien faire va coûter plus cher. Et finalement, c'est quand même le nerf de la guerre, ça reste l'argent. C'est aussi un des fils rouges de ce livre.
Alors, macroéconomiquement, c'est vrai. Malheureusement, ces coûts, ils sont inéquitablement distribué. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui, par exemple, que, je vous ai dit tout à l'heure, que les 10% les plus riches de la planète sont responsables de la moitié des émissions dites de consommation. Mais si vous prenez une approche par l'épargne, les 10% les plus riches sont responsables de 71% des émissions, à travers leurs investissements, leurs placements financiers. Donc là, c'est une concentration qui est limitée, mais ces 10%, en fait, ne vont que subir que quelques pourcents des dommages du changement climatique, car 75% des dommages du changement climatique à l'horizon 2050 va être subi par la moitié la plus pauvre de l'humanité, principalement dans les pays du Sud. Et donc, si aujourd'hui, bah, moi, je suis, je fais de l'investissement locatif à Paris, je suis actionnaire chez Total, j'ai aucun intérêt, même si c'est vrai, vu que moi, dans le présent, je viens enregistrer des profits personnels, et j'exporte un problème horizon 2030, 2040 dans des populations défavorisées des pays d'Afrique où je n'irai jamais. J'ai aucune incitation personnelle à arrêter faire ce que je fais. Et c'est pour ça d'ailleurs que les actionnaires de Total Energy se portent très bien et continuent de le faire. Et c'est pour ça aussi qu'on a besoin d'une modification politique pour se dire que ça ne devrait pas être éthiquement possible en fait, de maximiser sa richesse personnelle quand on est déjà riche en plus, à travers la dégradation d'écosystèmes qui vont faire que la pauvreté deviendra un problème insoluble dans le futur, dans des pays qui sont déjà dans un sacré pétrin.
Merci Timothée Paris pour toutes ces explications. Tout a été retrouvé dans votre livre « La science de la post-croissance ». Merci à tous.
Merci pour vos questions.